la future gare en fait, parce qu'on va avoir une concentration des flux. Bon, beaucoup vont se déplacer en souterrain, mais comment vous anticipez en fait la gestion de ces flux qui soient enfin, multi-mode de déplacement finalement?
Bien évidemment, beaucoup de ces flux se feront effectivement en souterrain, parce que ça sera quand même une connexion souterraine, mais il y aura aussi pas mal de flux de surface. Et dans le projet, il y a une gare routière, donc le multimodal que vous évoquez est bien sûr complètement intégré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat, là aussi je pense qu'on va réussir, on peut réussir dans pas mal de trous, à faire le franchissement des voies SNCF. Vous avez pu remarquer qu'il y a la gare du RER, dans le cul-de-sac, la rue François Mitterrand, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas, c'est pas possible ça. Donc on a donc le projet d'un franchissement qui permettrait de lier Pleyel à la plaine Saint-Denis, et surtout qui permettrait cette plurimodalité avec une gare routière bus permettant là aussi d'irriguer le territoire. C'est aussi un sacré défi. On a d'ailleurs dans le projet de la gare Pleyel qui a été donc dont le lauréat a été l'architecte Cuma, on avait vu une place beaucoup trop exiguë. Il a fallu qu'on revoie complètement la copie de cette place, parce qu'effectivement, quand on s'est aperçu des flux que ça allait générer, il fallait que l'espace soit suffisamment généreux pour permettre un flux correct, enfin un flux pacifique.
Moi j'avais une question sur...
Présentez-vous.
Oui, pardon, Frédéric Moulin, d'Artegaz. Moi j'avais une question sur le fonctionnement des territoires et de la métropole. Alors, sur les questions d'aménagement, vous avez les mêmes compétences, donc finalement... on peut se faire sans la métropole. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une construction d'interaction au projet réel avec la métropole, ou est-ce que pour vous c'est un sujet qui reste encore un peu, on va dire, en devenir, on va dire comme ça?
Si je n'ai pas pu vous rejoindre plus tôt, c'est qu'il y avait le conseil d'administration, conseil métropolitain, conseil métropolitain qui se tenait ce matin à la région. Il y a encore beaucoup de choses à construire. Moi, je pense que la métropole du Grand Paris aujourd'hui n'est pas... elle est dans l'adolescence, peut-être même pas. Peut-être elle est encore pas encore complètement pubère. Hein. C'est peut-être ça. Elle est en âge ingrat, comme disait Jacques Baudouin. Et qu'il y a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, vous dites, bon, pour nous, ça n'a pas trop d'incidence. Oui et non. Parce que, quand même, une des conséquences de cette métropole du Grand Paris, c'est d'avoir pris toutes les ressources, de redistribuer ces ressources, une grande partie de ces ressources, au niveau des communes, qui vont ensuite les redonner au territoire. Alors, on a un yo-yo financier qui est un peu compliqué. Heureusement, on a évité le yo-yo personnel, mais c'était ce qui était prévu dans la première loi. Dans la loi NOTRe, c'était le yo-yo du personnel qui était aussi envisagé. Mais néanmoins, ça fragilise. Ça fragilise et ça ne nous permet pas d'être complètement maître, finalement, de notre avenir. Il y a encore beaucoup d'aléas sur les questions financières. D'autant qu'il nous reste une ressource propre, c'est la CFE. Mais que normalement, en 2020, cette CFE remonte aussi à la métropole. C'est-à-dire qu'on sera complètement dépendant à la fois de la bonne volonté de la métropole et de la bonne volonté des communes. Et c'est là où c'est un peu dommage, parce que on a créé une métropole, donc qui est l'intercommunalité des 131 communes de cette zone dense de la région Île-de-France. Les territoires ont été construits, enfin se construisent, parce que en plus c'est quelque chose d'un peu complexe, il y a des villes dans ces territoires qui sont assez récalcitrantes. Mais ça se fait dans des conditions où finalement ces territoires ont bien sûr des compétences, mais n'avaient pas de lien intrinsèque avec la métropole. Alors on a là aussi travaillé, ça fait partie d'ailleurs de mes responsabilités en tant que vice-président de la métropole du Grand Paris, on a travaillé une charte de relations entre la métropole et les territoires pour figer un certain nombre de relations entre les deux, qui n'existe pas dans la loi. Mais on sent bien qu'on est aujourd'hui, il y a un truc un peu bâtard, quoi. Parce que finalement, moi je vois comment les communes réagissent, et pourtant nous ça fait 15 ans qu'on existe, et on s'était créé sur la base de coopératives de ville, c'est-à-dire que la communauté d'agglo ne pouvait pas prendre une décision contraire à la ville concernée. Et donc au respect du suffrage universel, et moi j'ai la chance de présider une communauté d'agglo où il y a 5 maires communistes, 2 de droite, 1 PS et 1 Europe Écologie des Verts. Et je dis bien la chance. Parce que ça fait bouger les lignes. Mais quand on a construit cette communauté sur cette base de coopérative de ville, ça nous a rendu plus forts. Ça nous a permis, par exemple, de négocier d'une même voix le contrat de plan État-Région. Et on a obtenu des choses qu'on n'aurait jamais, enfin, les villes n'auraient jamais obtenues si elles étaient allées toutes seules. Villetaneuse avec son bout de tramway du T8. Si Villetaneuse avait dit moi je veux mon bout de tramway, on lui aurait rironné. Mais c'était le cas aussi pour les projets de rénovation urbaine. On a négocié avec Jean-Louis Borloo un contrat territorial de rénovation urbaine, alors même que certains projets n'étaient pas du tout prêts et qu'ils n'auraient jamais été financés puisqu'ils arrivaient trop tard. Mais j'ai négocié avec lui en lui disant voilà, on a 24 projets en rue, il n'y en a que 15 qui sont aujourd'hui ficelés. Je voudrais que les 24 soient inscrits et on les présentera au fur et à mesure de l'avancement. Là, c'est pareil. Si une ville avait été négociée, il n'y serait pas arrivé. Donc c'est une force. La métropole fragilise aussi. Parce que la métropole est presque vécue. Elle s'était renforcée par Inventons la métropole, l'appel à projet Inventons la métropole, comme une sorte de guichet quelque part. Et que les villes vont dire, bah, tiens, je vais obtenir ça de la métropole. Il a fallu, alors qu'on était déjà bien constitués, et heureusement, il a fallu qu'on dise aux villes, attention, attention, vous allez présenter des projets inventant la métropole, est-ce que c'est un projet porté par l'ensemble du territoire? Est-ce que vous n'avancez pas quelque chose qui finalement n'est pas prioritaire pour nous? Enfin, heureusement, bon, on a réussi à mettre tout ça en ordre, mais je sais que dans d'autres territoires, alors qu'ils sont en train de se construire, il y a déjà des rivalité, des concurrences entre les villes, parce que certaines ont réussi à mettre dans les appels à projets, enfin, ont répondu à l'appel à projet avant la métropole, et se priorisant finalement par rapport à d'autres villes, et commençant à créer la zizanie. Donc c'est un véritable enjeu. Alors, aujourd'hui, effectivement, on a la maîtrise hein, de ce qu'on peut faire, après, on n'a pas les moyens, mais on n'est pas au bout quoi, de l'histoire de cette métropole.
On a eu la chance.
Présentez-vous, s'il vous plaît.
Pardon, Stéphane Cordoba, CGET. On a eu la chance de travailler sur Culture et Métropole avec Olivier Mongin et Michel Lusseau. Finalement, dans ta présentation, tu as mis en avant plutôt la culture à travers les grands investissements, finalement, ce qui relève de l'événementiel métropolitain. Or, sur le projet de territoire, la culture joue un autre rôle. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus?
Oui, c'est vrai que quand on a été. Alors, pour la petite histoire, quand Christian Blanc, qui était donc secrétaire d'État au Grand Paris, m'a invité à venir, son premier propos, c'était de me dire, voilà, je voudrais faire un cluster des industries de la création et on fait un établissement public. Est-ce que tu es d'accord? Là, je ne suis pas d'accord ni avec cluster, ni avec industrie, ni avec les établissements publics. Il m'a dit, bon, on n'a plus rien à se dire. Je lui ai dit, peut-être que si, on a encore peut-être des choses à se dire. Donc l'idée de cluster, lui, il partait effectivement de Pleyel, considérant que c'est là que ça allait se passer, et de développer un cluster autour de l'image, autour de télévision, cinéma, numérique, parce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup sur ce territoire. Et là, donc première objection, je lui dis, écoute, on se bat à l'intérieur de Paris Métropole pour qu'il n'y ait pas qu'une seule centralité, mais sur l'idée de polycentrisme, il y a plusieurs centralités dans le Grand Paris, avec des histoires différentes, avec des spécificités de chacun de ces territoires. Et on essaie de s'appliquer chez nous le même principe. Bien sûr, il y a le centre-ville de Saint-Denis qui est sans doute hiérarchiquement le vrai centre-ville. Mais il y a d'autres centralités. Pleyel sera une centralité. Mais les gares qui vont s'ouvrir au mois de juillet, ce qu'on appelait la tangentielle nord et qu'on appelle maintenant le T11, le fort d'Aubervilliers, le centre-ville d'Aubervilliers, la zone des Tartres à Pierrefitte, à cheval sur Pierrefitte et Estaing sont aussi des centralités. Et donc, moi, je lui ai dit, cluster, ça ne me convient pas. Je veux qu'on, si on va, qu'on continue ensemble, ça sera un territoire, un vrai territoire. Et puis, je lui dis, sur les industries de la création, c'est trop limité. La création, ce n'est pas simplement l'image, ce n'est pas simplement cinéma, télévision, numérique. C'est l'ensemble des activités culturelles qui existent sur ce territoire, culturelles et créatrices. Et c'est là que je lui ai dit qu'on avait des centaines d'artistes, des centaines d'artisans, que l'on avait deux centres dramatiques nationaux, qu'on avait Zingaro Bartabas, qu'on avait l'Académie du site Fratellini, qu'on avait un festival de musique reconnu mondialement, enfin, etc., etc. Et qu'on ne pouvait pas se limiter, à partir du moment où on parlait de création, de culture, simplement au cinéma et à la télévision, surtout que bah, les studios de télévision qu'on a, il y a peut-être... la marge entre culture et ce qui se passe à l'intérieur. Le loft, bon, voilà. Donc, et puis je lui ai dit, établissement public, non. Et donc, comment on fait ? Je lui ai dit, moi, la meilleure façon, alors c'était assez amusant parce que ça m'a permis de me rajeunir d'une vingtaine d'années. Je lui ai dit, avec Ralit, on est allé voir Bérégovoy, on lui avait proposé un copilotage, un contrat entre l'État et les collectivités locales. Pourquoi on ne ferait pas la même chose ? Pourquoi on ne serait pas d'accord sur des objectifs partagés entre l'État et les collectivités locales ? Et c'est comme ça qu'est né le contrat de développement territorial, parce qu'il a dit, ok, bon, je comprends ce que tu dis, on y va. Le paradoxe, c'est que pleine commune n'a pas la compétence culture. La compétence culture est restée au niveau des villes. Donc on s'est dit, c'est bien beau, on est territoire de culture et création, mais on n'a même pas la compétence. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là, et tu as eu raison de m'interpeller là-dessus, qu'on s'est dit, mais si finalement on est territoire de la culture et de la création, est-ce qu'on ne peut pas revisiter toutes les politiques que l'on mène avec le prisme culturel et créatif ? Toutes les politiques, y compris les politiques d'aménagement, les politiques des espaces verts, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une activité, une compétence de pleine commune qui n'est pas peu ou prou irriguée par cet aspect de la culture et de la création. Et même on considère que dans la construction d'un bâtiment comme dans la réalisation d'un espace vert ou d'un espace public, il y a besoin de 6 expertises. Je vais vite. L'expertise de l'élu, enfin celui qui porte une vision, un projet. L'expertise du technicien, l'ingénieur quand il s'agit de faire un pont, un paysagiste, hein. L'expertise de l'habitant, de l'usager, plus d'usager que de l'habitant, parce qu'aujourd'hui on voit que, par exemple, quand on a réalisé un espace vert non loin d'ici, à côté de SFR, on a aussi interrogé les salariés pour savoir ce qu'ils attendaient d'un espace vert, d'un espace public, à côté d'eux. L'expertise de chercheurs, d'universitaires qui ont pu réaliser les mêmes choses dans d'autres endroits et qui peuvent nous dire, oula, ça ne marchera pas parce qu'on l'a fait là-bas et ça n'a pas marché, qui ont donc un retour d'expérience. L'expertise de ceux qui vont avoir géré le site ensuite, parce qu'on s'aperçoit qu'un architecte, un urbaniste peut avoir de très bonnes intentions, et puis que, par exemple sur les matériaux qu'il va mettre au sol, et puis les gens qui vont avoir les nettoyer disent mais ça ne marchera pas non plus, parce que il y aura trop de passages, ça marchera pas. Et puis l'expertise des hommes de l'art, enfin des artistes, qui à un moment vont donner une dimension humaine, quelque part, c'est un équipement ou un aménagement. En tout cas, qui vont y mettre leur patte. Et qui vont, dans le cadre de la préparation, de la construction, de la réalisation, vont travailler avec les habitants et les usagers. Et aujourd'hui, dans tout projet d'aménagement, on s'y prend suffisamment à l'avance, mais en gros, c'est un an avant, entre un an et 9 mois, et on fait un appel à projet des artistes pour qu'ils participent à la réalisation de cet espace public, cet espace vert, ce bâtiment. Et voilà comment on a intégré, nous, un peu comme fil rouge, la culture, la création et l'innovation dans les politiques de pleine commune, alors même que nous n'avions pas cette compétence.
Merci. Peut-être, monsieur le commissaire, vous intervenez. 10 minutes, c'est un format qui vous va. Et donc, notez vos questions. Après, on sait que nous quittons à 13h20, c'est ça, hein?
15 même.
13h15. Ah, dans 10 minutes. Donc, si voilà. Vous faites 5 minutes, il y aura encore la place pour
quelqu'un. Juste une remarque. Moi, j'ai entendu plusieurs choses qui m'intéressaient, évidemment, dans cette intervention. Mais il y en a une, surtout, sur laquelle je reviens, parce que ce n'est pas la première fois que je l'entends dans mes fonctions de commissaire. C'est dans l'historique que vous avez fait, à plusieurs fois, vous nous avez dit, et à ce moment de notre réflexion, nous, élus responsables, on a appelé l'État à venir travailler avec nous. Et je trouve que c'est... Je trouve que c'est une évolution qui est intéressante dans la relation entre les collectivités territoriales et l'État. Il y a 3 semaines, j'étais auditionné par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, et qui venait de débattre sur un rapport rendu par 2 sénateurs sur les relations État-collectivités territoriales. Et j'avoue, j'étais extrêmement étonné parce que, je ne vais pas dire que c'était une phrase sur deux, mais c'était une page sur deux dans les auditions qui avaient été faites donc par ces sénateurs. Il y avait la même remarque, c'est-à-dire qu'on avait des élus de territoire qui, en responsabilité, dans l'élaboration des projets qu'ils portaient, demandaient à l'État de venir les appuyer, de venir comme partenaire. Et pour moi, donc, c'est une évolution que je considère comme évidemment très positive, et sur laquelle, évidemment, ici au CGET, on essaie de construire. Et c'est dans cette logique-là qu'on porte, comme vous le savez, historiquement, les contrats de plan, mais beaucoup plus récemment, les contrats de ville, dans le cadre de la loi Lamy, les contrats de ruralité qu'on porte depuis 2016, les contrats État-métropole qu'on a construits cette année. Et il me semble donc que là, on est en train de décrire finalement les suites des lois de décentralisation et qu'on est à la recherche d'un nouvel équilibre entre donc, État et collectivité territoriale, un équilibre partenarial. Et c'est ça qui me semble être l'une des choses importantes dans ce que vous avez dit. Voilà, je ne sais pas si vous partagez mon sentiment.
Ah si, si, je le partage complètement. Sans remettre en cause, pour autant, les lois de décentralisation. Mais avec nous, on a eu tout de suite l'intuition, au début des années 90, qu'il y avait des enjeux qui nous dépassaient, quoi. Enfin, il y avait des enjeux qui dépassaient les propres intérêts locaux, et qu'il fallait que pour le moins, on travaille avec le département, encore que ce n'est pas vraiment dans ses compétences, qu'on travaille avec la région, et qu'on travaille avec le partenaire État, avec l'idée que y a nécessité de cette articulation entre les enjeux locaux qui sont les nôtres et une vision qui permet d'avoir une vision plus générale et qui permet justement sans doute un bon équilibre, là aussi, au niveau de l'aménagement urbain. Je le dis d'autant plus que je pense que... faire un commentaire sur la question des métropoles, il y a un vrai défi sur les métropoles et le reste de la France. J'en discutais tout à l'heure avec un autre élu qui me dit, finalement j'ai lu le bouquin de Christophe Gulli, t'avais raison, il a raison contre Roger Martelly, enfin bon, c'était un débat entre nous, mais je reste convaincu que il faut arrêter une métropolisation qui ne fera que renforcer les inégalités spatiales et sociales de fait. Moi, je me bats depuis le début, au sein de cette métropole, et y compris au sein de Paris Métropole, sur le fait qu'on arrête de dire une métropole attractive. Ou alors, si elle est attractive, il faut qu'elle soit d'autant plus rayonnante. Il faut qu'elle irrigue aussi le reste du territoire. Et c'est valable pour la métropole du Grand Paris, comme pour les autres métropoles de l'Hexagone. Sinon, la conséquence, c'est qu'on va avoir de plus en plus de territoires qui seront laissés pour compte. Moi, j'ai passé beaucoup de mes vacances à Saint-Germain-de-Calberte. La Lozère, ça me disait quelque chose. Quid, quoi, de ces territoires. Si il faut qu'elles-mêmes soient décentralisées. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que chaque habitant habite dans un territoire qui compte. Et moi, je reste convaincu qu'une des, une des raisons de ce qui se passe au niveau politique, hein, et compris dans les urnes, vient du fait qu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent qu'ils ne sont plus considérés. Ils ne comptent plus. Et ils ne comptent plus non pas parce que c'est leur, simplement leur situation sociale qui les amène à dire « je ne compte plus », parce que sinon, avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à la situation sociale de notre territoire, on aurait la même chose, mais bien parce qu'ils sont, eux, dans une situation sociale particulièrement difficile, et en plus, dans un territoire qu'ils considèrent comme étant laissé pour compte. Moi, c'est ce que on a beaucoup appris dans l'histoire du Stade de France. Parce que quand la décision est prise, c'est la première fois que l'État, avec l'aval sans doute d'un certain nombre de partenaires, je pense notamment à la ville de Paris, d'autant qu'elle était propriétaire du terrain de la ville de Paris. Première fois que l'État décide d'implanter un équipement rayonnant, valorisant en banlieue. Jusqu'à présent, notre banlieue, elle avait été bonne à recevoir ce que la ville de Paris ne voulait pas. Et encore aujourd'hui, hein, du centre-ville d'Aubervilliers, tous les jours partent les bennes ordures de la ville de Paris. Pendant des années et des années, on a eu les entrepôts des pavés de Paris sur le territoire non loin d'ici, enfin sur le territoire de la Plaine. Alors, 68, ça nous a aidé, mais le reste du temps, c'est plutôt encombrant, quoi, un pavé. Donc on est bien, on était bien dans une sorte de, voilà, tout ce qu'on veut pas, c'est aussi le cimetière parisien. On les met hors les murs. Et là, pour la première fois, on fait passer le message à la population, vous êtes digne d'accueillir un équipement national et même international. Si on est digne, d'un seul coup, eh ben, la dignité aura le point de dessus et le respect. Et moi, j'ai vécu des moments extraordinaires pendant cette période de 93 à 98, avec les gens qui visitaient le stade, avec toutes les initiatives festives, culturelles qu'on avait prises au moment de la Coupe du Monde et ensuite après les événements, parce que les gens étaient là, quoi, et quelle que soit leur situation. Et on ne se demandait pas, quand on se retrouvait, qu'on se frottait dans ces événements, on ne se demandait pas si le voisin d'à côté, il avait du boulot ou pas de boulot, s'il avait, il était français ou pas français, s'il avait des papiers ou pas de papiers, etc., etc. On partageait quelque chose de commun. Et c'est sans doute lié un petit peu à mon histoire politique, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque cruellement dans notre pays et sans doute dans d'autres, c'est le commun. Comment on recrée du commun? Comment on recrée du partage? Comment on recrée du vivre ensemble? Et les enjeux qu'il y a au niveau des métropoles, c'était d'ailleurs un des objets de débat très fort à Habitat 3, qui s'est tenu à Quito au mois d'octobre dernier ou septembre dernier, c'est quelle métropole on construit. Aujourd'hui, toutes les métropoles se construisent sur le même schéma, à savoir, elles sont exclusives, ségrégationnistes, elles ont tendance à enfermer les gens en fonction de leur origine, leur niveau socio-économique, etc. On a peut-être encore... Je dis peut-être encore, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont assez mal engagées, mais on a encore, peut-être, l'opportunité de construire une métropole du Grand Paris qui rompt avec cette logique-là. Et je faisais référence tout à l'heure en aparté sur une étude qui a été faite à Londres, qui montre que Londres est aujourd'hui dans une gentrification d'un côté et une exclusion des populations les plus précaires à l'extérieur de Londres, dans les quartiers, les boroughs les plus éloignés. J'ai un de mes fils qui a fait sa thèse là-dessus, donc je peux vous dire qu'il a vécu de près. Ce qui m'énerve, c'est quand on prend Londres comme exemple. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas envie que le Grand Paris ressemble au Grand Londres. Au monde de la finance, et puis que 45% des enfants qui vivent au seuil, sous le seuil de pauvreté. Voilà. Si c'est ça l'avenir du Grand Paris, eh bien, je pense que c'est pas un avenir réjouissant.
Une question triple.
Présentez-vous.
Vous êtes bien au clair, EDS. Une question triple. Voilà, la première, elle tient à votre amour pour le ballon ovale. Que pensez-vous de la décision de ne pas construire le grand stade de rugby du côté d'Evry qui va nous permettre de garder. La deuxième, c'est après cette levée à l'ouest, le développement urbain de pleine commune semble se poursuivre à l'est avec le campus Côte d'Orsay, la cité internationale universitaire. Comment vous voyez la liaison entre les deux et puis les évolutions que ça va apporter? Puis la troisième, elle tient aux côtés territoire de la culture et de la création. On avait envisagé une villa Médicis au parc Georges Valbon. Comment vous voyez-vous et que pensez-vous des modalités de développement de ce parc qui est un des plus grands sur le territoire de Seine-Saint-Denis?
Alors, trois réponses rapides, parce que sinon je vais...
Les 14 jours.
Première, très bonne chose, qu'on ait abandonné le stade de rugby, enfin, une aberration, bon bref, pas de projet économique, on aurait tué les deux stades. Deuxième était une vraie bonne question, parce que faut qu'on fasse attention à ne pas être de plus en plus capté par des grandes réalisations et qu'on ne crée pas les liens urbains entre eux. Et ça, c'est un vrai danger. C'est vrai, vous l'avez dit, il se passe plein de choses à l'Est, contrairement à nouveau. Non, c'est pas à l'Ouest. Donc, il y a effectivement le Fort de l'Est, il y a le campus Condorcet, il y a le quartier international sur les universitaires, il y a, si on remonte un tout petit peu au nord, mais toujours à l'est, Babcock sur la Courneuve, avec un gros projet, un projet processus, dans un bâtiment industriel, pas équivalent, mais pas loin d'être équivalent à ce que vous avez vu rénover, et donc avec cette volonté de garder la structure de cette ancienne usine. Et vous voyez, on voit bien qu'on a des lieux comme ça. Donc comment on fait lien, et comment on a une continuité urbaine, comment on fait en sorte aussi que ça soit jalonné par du logement, enfin qu'on retrouve toutes ces fonctions humaines que j'évoquais. Jusqu'à présent, on ne s'en est pas trop mal sorti. Mais il faut qu'on veille à ne pas créer des enclaves, quoi. Voire des campus fermés. On a eu un débat, je ne sais pas si c'est quelqu'un de GDF Suez, enfin Engie, pardon, et on a eu un débat avec Gérard Mestralet, quand il avait le projet de venir implanter tout Engie sur le site de la Plaine, parce qu'ils avaient une vision d'un cluster fermé, quoi. Il ne s'ouvre pas sur la ville. On s'était mis d'accord in fine, et puis finalement ce projet ne se fait pas. Mais c'est un vrai enjeu. Et puis la troisième question...
Le parc Georges
Valbon. Alors d'abord, la Villa Médicis, ce n'était pas sur le parc Georges Valbon, c'était à Clichy-Montfermeil. C'est dans la cité dite des Tilleuls, qu'on appelle maintenant encore les Tilleuls. Un jour, on retrouvera le nombre. On va dire c'est la cité des cités 6500. Voilà. Et sur le projet, sur le parc Georges Valbon, on est très très attaché à l'intégrité de ce parc. Voilà. Et que si il doit y avoir des constructions autour du parc, c'est autour du parc. Et sans rien renier sur la surface actuelle du parc. Je suis convaincu qu'on est, d'ailleurs j'étais convaincu par un des architectes qui avait travaillé sur les projets post-Tokyo du Grand Paris, dans le cadre de l'appel à projet que Sarkozy avait lancé, qui était, parce qu'il lui aussi est décédé, qui travaillait avec Paul Vigano, son nom va me revenir, qui travaillait avec Paul Vigano, Antonio Secchi, qui disait en France, vous ne savez pas passer du végétal ou de l'eau à la ville. Il y a des fractures, des cassures nettes. Alors que dans d'autres pays, on passe d'un à l'autre, on est dans de la verdure et d'un seul coup, on s'immisce et puis hop, la ville apparaît, il n'y a pas de rupture. Et vice-versa, on est dans la ville et d'un seul coup, hop, on se retrouve dans la verdure. Nous, c'est boum. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est encadré par, si vous voulez, par le parc de la Courneuve. Tout autour du parc de la Courneuve, vous avez des 2x3 voies, des 2x2 voies. Bref, vous avez des boulevards urbains, enfin, ils ne sont même pas boulevards, ils sont pas urbains, mais des boulevards qui entourent ce parc de la Courneuve. Pas de pénétration douce. Et ça, je pense qu'il faut qu'on y remédie. C'est la seule chose que je souhaite vraiment par rapport à l'évolution de ce parc, c'est qu'il soit gardé dans son intégrité et que l'on permette ces accès perméables, quoi, une porosité entre la ville et les espaces naturels. C'est une vraie question, hein, et je veux qu'on y répond assez mal.
Justement, peut-être que si on a le temps pour aller développer, comme
notre berche.
On ne va pas développer, mais c'est une grande question. Comme on est dans une session où on parle quand même d'environnement, de développement durable, c'est quelque chose dont vous avez très peu parlé.
Oui, parce que ça fait partie un peu de notre ADN. Comme je vous le disais, j'ai eu la chance d'avoir parmi les maires de Plenco un maire militant en Europe Écologie des Verts, mais au bon sens du terme. Un maire soucieux de tout ce qui est développement durable, de protection de l'environnement, qui nous a donc amené à travailler très très vite sur un plan climat-énergie, avec des décisions qu'on a prises, notamment sur tout ce qui est construction neuve, des promoteurs, avec une charte construction, le préfet nous a tapé sur les doigts parce que elle va au-delà de ce que la loi exige, mais on s'en moque, on l'a fait signer quand même à des promoteurs qui acceptent de le faire parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'y engager. Donc on a été très, très volontaires sur ces questions à la fois énergétiques sur les bâtiments, tout ce qui est de développement durable et environnemental. On a par exemple mis il y a maintenant 5-6 ans en place, je l'évoquais tout à l'heure, une économie endogène et une économie circulaire, avec l'utilisation des matériaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul bâtiment qui est démoli aujourd'hui, dont les matériaux différents sont triés et réutilisés quand ils peuvent l'être. Ainsi, on a démoli le siège de Babcock, j'évoquais Babcock parce que la Banque de France vient s'y installer, avec tout son pôle fiduciaire. On a donc démoli ce bâtiment. Il y a eu donc un tri des matériaux et toutes les briques, parce qu'il y a plein de petites briques rouges, là, vous savez, on les réutilise dans les espaces publics. On travaille avec une association qui s'appelle Bellastock, qui est devenue un peu référent dans ce domaine. On fait la même chose sur l'île Saint-Denis dans les démolitions, et ça, c'est aussi quelque chose qui nous semble important. Les circuits courts. Éviter les myriades de camions, de déplacements, etc. Ça va être un des enjeux aussi d'ailleurs autour du Grand Paris Express et du village olympique. Comment faire en sorte que, non seulement dans sa réalisation, mais dans sa destinée future, que ça soit effectivement un quartier exemplaire sur ces questions-là, mais y compris dans sa réalisation, comment on fait en sorte que la réalisation de ce village olympique soit aussi exemplaire.
Justement, avant de vous libérer, monsieur le président de pleine commune, je vous passe un message. Effectivement, nous, Caisse des dépôts, on est très engagés dans ce projet de village. Et je voudrais souligner, en lien avec ce que vous dites, il nous semble que stratégiquement, si on pouvait inventer le réseau énergétique intelligent du 21e siècle, parce qu'on sait que c'est là que réside la plupart des enjeux, développement durable, CO2, économie d'énergie, facture des ménages. C'est dans cette interaction, cette vision holistique de l'énergie où on peut s'échanger des calories, les acheter, les vendre, les réguler. Et il y a beaucoup à faire. On est sur des modèles centralisés d'énergie qui visent finalement à vendre, à produire beaucoup et à vendre massivement. Et ce qu'on propose nous aujourd'hui aux partenaires, à Plenco, aux syndicats d'énergie, à tous les acteurs du village olympique, l'étude de son représentant et référent est ici dans la salle, va être lancée dans quelques jours. On a 4 mois avant la victoire de Paris Olympique à Lima pour préparer le terrain et inventer ce nouveau grid énergétique. On fera école, ça rayonnera, vous parliez du rayonnement, ça rayonnera partout en France si on sait inventer comment les tuyaux, d'une part, mais aussi le pilote d'un nouveau genre pourra être mis en place, c'est-à-dire celui qui ne sera pas conflicté, qui ne va pas être ni vendeur ni acheteur d'énergie, qui sera l'animateur en visant l'optimisation générale, le moins de gaz à effet de serre, le moins de factures pour les ménages et le moins d'énergie gaspillée. Et c'est une des propositions qu'on fait. Dans la table ronde de cet après-midi, on s'étendra plus avant avec d'autres experts sur ce projet de smart village olympique écologique. Mais encore un très grand merci à vous pour votre présence, votre contribution.
Merci. Si je peux juste ajouter un mot, je partage complètement ce que vous avez
dit. Ça ne va pas être facile, on a besoin de votre support.
Ça ne va pas être facile. Et puis, un petit, tout petit mot par rapport au terme de smart city qu'on utilise beaucoup en ce moment. D'abord, on me méfie de smart, moi, parce que ça veut dire futé. Derrière futé, il peut y avoir roublard. Et comme je n'ai pas envie de me faire rouler dans la farine. Et puis, j'y crois pas à la ville intelligente. Je crois à l'intelligence des hommes et des femmes qui vivent dans une ville. Voilà. Et
bon c'est tag. Ça qui faut construire. Vous avez passé le message et notre directeur de bureau était très convaincu, nous a redescendu.
Ah oui, c'est pas parce que
vous en aviez parlé et c'est vrai qu'on va mettre ville intelligente, mais le numérique peut être un fort levier pour le social et économique. Merci à vous.